Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour Mona Lecoeuf.
Bonjour Nathalie.
Alors, ravie de vous accueillir tout d'abord ici dans ces studios à Lourdes, dans le cadre de ce grand pèlerinage du Rosaire où vous participez. Vous participez aussi pour livrer aussi une part de votre vie, de votre témoignage, puisque vous avez vécu, vous nous l'avez témoigné hier, des abus de la part d'une grand-mère et puis des abus d'un prêtre. Et cette période a duré de vos 8 ans à vos 13 ans et puis au fond, la libération est arrivée lors d'un déménagement. J'aimerais vous interroger et vous demander, au fond, aujourd'hui vous êtes une femme de 64 ans, quand on a été et vécu la maltraitance, certains de nos auditeurs vont peut-être se reconnaître eux-mêmes. Comment on se reconstruit? Qu'est-ce qui s'est passé aussi pour être aussi la femme que vous êtes aujourd'hui?
Alors d'abord, ça n'a été que de ténèbres, puisque... j'ai pris énormément de poids, pardon. Et puis, j'ai voulu arrêter plusieurs fois, voilà. Donc, et j'ai continué malgré tout, vaille que vaille, en me réfugiant dans les études. Voilà, j'ai surinvesti les études pour pouvoir prouver peut-être que je valais quelque chose. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer un homme charmant, fabuleux, etc., qui est mon mari depuis 38 ans, qui s'appelle Patrick.
Et on salue Patrick. Ouais.
Et avec lui, on s'est mariés à l'église, et avec lui, j'ai eu deux enfants, et qu'on a fait baptiser, et qu'on a amené à la communion. Voilà.
On y reviendra aussi, parce que c'est aussi le début d'une nouvelle histoire pour vous.
Hein. Tout à fait. Et mais je me suis reconstruit sans Dieu. C'est-à-dire que toute cette période de 13 ans, enfin, jusqu'à l'an 2000, enfin, jusqu'en 1998, c'est une existence sans Dieu. Alors, à partir du moment où on a eu notre premier fils, que j'ai mis au monde, je sentais que j'avais de la violence, donc j'ai commencé à faire des thérapies. Voilà, j'ai été voir des psychologues.
Vous avez eu peur de vous-même ?
J'ai eu peur de moi-même. Je pensais que j'allais le tuer. Je me voyais l'exploser sur la porte. Enfin, ça durait. Enfin, j'ai pris la décision quasiment au bout d'un mois, une fois qu'il avait un mois. En disant, je ne peux pas, il ne faut pas, il ne faut surtout pas.
Devenir mère pour la première fois, avec un passé où vous avez connu, au fond, une grande violence sur votre corps, le lien est là.
Ça a été compliqué parce que, j'étais opérée, j'avais des problèmes d'ovulation. Et donc, j'ai une opération et le gynéco disait que c'était plutôt psychologique. Donc, à partir du moment où il y a l'opération, etc., voilà, on a eu la grâce d'avoir notre premier.
Voilà. Et puis la grâce, donc, on entend bien, de faire le pas pour en fait vous faire accompagner,
oui,
et suivre une thérapie.
Voilà.
C'était vital.
C'était vital pour lui,
pour sa survie, pour votre survie et la survie d'une famille. Et donc,
oui,
on imagine.
Voilà, c'était vital, mais ça s'est fait en cachette parce que ça se disait pas.
Voilà. C'était un peu tabou encore à l'époque.
C'était tabou, oui, c'était tabou. Et puis quand Sébastien est arrivé, j'ai continué. Donc il y a eu des moments de thérapie, des moments d'arrêt, et puis des moments qui étaient pas terribles. J'étais, je peux l'avouer maintenant, j'ai été boulimique pendant des années et des années, avec des crises me cachant pour que les enfants n'entendent pas ou en disant que j'étais malade.
Donc les conséquences dues à ces abus que vous aviez vécu.
Puis des cauchemars et puis...
Puis des désirs d'arrêter avec la vie.
Voilà, à partir du moment où les enfants étaient là, non, c'était terminé, ça, je pouvais pas leur faire ça. Mais des difficultés à être dans la relation, des difficultés à être, même si j'étais enseignante, mais d'être en relation avec les autres, etc. Et puis même les relations intimes, c'est pas si simple que ça. Voilà, donc c'est des conséquences que la maltraitance peut avoir. Puis toujours à m'excuser, toujours à croire que j'étais pas capable d'eux, que j'étais nulle, demander à mes enfants 500 000 fois si j'étais une bonne mère. Enfin,
donc un besoin aussi d'être en permanence rassurée.
Rassurée, oui, oui, tout le temps.
C'est fini aujourd'hui. Vous êtes une femme de 64 ans.
De temps
vous
en temps, ça relevée. Revient quand même. Les cauchemars sont encore. Il y a des problèmes pour s'endormir. Ça arrive, oui. Bon, en plus, avec l'actualité, avec la chiase, etc. Ça...
Alors, comment vous traversez, vous revenez aussi à l'actualité. Malheureusement, c'est une actualité qui est toujours de plus en plus présente dans le monde des médias et de l'Église. Quel est un peu votre recul pour ne pas vous laisser dépasser par tout ce que vous entendez et tout ce que l'on peut aussi parfois vous confier?
Alors, je dépose. Voilà. Donc, je faisais ça quand j'étais enfant, j'allais au pied de la croix ou dans le cimetière, mais je ne savais pas ce que c'était déposer. Je dépose, voilà, je dépose. Et puis, voilà, je relativise aussi beaucoup par rapport à... C'est pas parce que j'entends des personnes qui sont maltraitées qu'il faut que je réactive ce que j'ai vécu. Donc, je suis plutôt à l'écoute que à m'écouter. Voilà. Mais... j'ai un bon déambulateur, hein, c'est Jésus, là, il m'aide bien.
Alors, vous avez fait ces petits pas de reconstruction avec ces temps aussi de thérapie, mais c'était une reconstruction en relèvement sans Dieu.
C'était en relèvement sans Dieu, oui, tout à fait.
Et il y a eu la suite d'un parcours où ce relèvement va se produire. Et cet épisode est incontournable, vous le relatez aussi dans votre livre. Vous vous laissez surprendre. Racontez-nous cet épisode.
Alors, je dis toujours que quand on s'éloigne de Dieu, on revient très très vite. Il nous accroche un élastique dans le dos et on revient, c'est terrible. Ça. Voilà, donc j'ai passé toute mon adolescence. Alors, jusqu'à 13 ans, jusqu'à 15 ans, j'ai participé à l'aumônerie, etc. Et puis, il y a une sorte de cassure. On m'a obligé à être confirmé alors que je ne me sentais pas. Donc, j'ai senti que c'était trop, donc je suis partie. En posant des questions aux prêtres aussi qui me demandaient de ne pas poser ces questions-là. Et je suis partie et j'ai passé le reste de entre 15 ans et 38 ans à casser du curé et à prouver que Dieu n'existait pas. Donc voilà, j'ai fait des études d'histoire et un peu de théologie pour prouver que Dieu n'existait pas. Voilà. Et puis, notre fils, Loïc, devait faire sa profession de foi. Donc, il y avait un sacrement de réconciliation. Et j'étais dans la voiture, sur le parvis, en train de corriger mes copies, parce que, ostensiblement, je ne rentrais pas dans l'église pour montrer que j'étais en désaccord. Donc, je corrigeais gentiment mes copies dans l'église, dans la voiture, pendant que mes fils assistaient à la messe. Il a fallu que je rentre pour demander au prêtre si la présence de la marraine était importante. Et donc, il m'a répondu que non, ce n'était pas nécessaire. Donc, je suis sortie de l'église. J'ai tendu les clés à mon fils en disant « je reviens ». J'ai fait demi-tour, j'ai remonté les marches de l'église, j'étais voir le prêtre. Et j'ai été lui dire en me tapant la tête contre le mur « Monsieur l'abbé, je voudrais me confesser ». Et je me suis dit « mais c'est n'importe quoi ». Et quelques jours après, rendez-vous pris... Donc le prêtre m'a écouté pendant une heure. Moi, je demandais un sacrement de réconciliation puisque j'avais quand même quelques souvenirs. Et je suis reparti sans sacrement de réconciliation. Il m'a dit « Vous revenez dans 15 jours, etc. » Voilà. Donc lui a avoué que jamais, jamais il avait fait ça, que jamais il avait laissé quelqu'un repartir. Donc je pense que le Seigneur était à l'œuvre à ce moment-là. Et quand je suis revenu, j'ai reçu le sacrement de réconciliation et là j'ai reçu une immense paix, mais en même temps j'ai eu un cadeau qui me surprenait de façon étonnante. Oui. C'était la prière. Je priais tout le temps. Bon, pour faire un cours en priant, c'est pas forcément évident parce que on est beaucoup moins concentré pour faire un cours d'histoire. Par exemple, sur la religion romaine, on prie la Vierge Marie. Enfin, on prie Jésus parce que la Vierge Marie, c'était...
Oui, c'est une autre histoire aussi. On va en parler aussi de la Vierge Marie parce qu'il y a aussi un petit chapitre dans cet ouvrage où vous relatez aussi l'épisode. Et on peut le comprendre, mais vous nous l'expliquerez aussi avec vos propres mots. Et puis ce que vous avez vécu au fond dans votre chair et puis dans votre corps, dans ce rapport au fond... au Père, ce rapport aussi à la mère, et en l'occurrence la Vierge Marie. Donc,
moi, je priais Jésus.
Marie, ça a été plus tard.
Mais Dieu, ça a été aussi après.
Et Dieu après, Jésus en premier.
Jésus en premier.
Alors, c'est une longue histoire, et puis on entend bien que c'est étape par étape. Il y aura de multiples temps de réconciliation. Donc, Jésus, le Père, et puis la mère.
Et puis la mère.
Aujourd'hui, vous êtes une femme, ça c'est la bonne nouvelle. Oui, c'est important. Qui vous êtes relevée. Votre cœur est en paix.
Mon cœur est apaisé.
Apaisé.
Il n'est pas en paix. Je pense que la paix sera quand j'aurai réellement pardonné. Parce que souvent, je dis, au début, quand je témoignais, je disais j'ai pardonné. Mais en fait, je me rends compte que je suis sur un chemin de pardon.
Ah, j'allais vous questionner justement autour du pardon. On pourrait peut-être y revenir
demain.
Dans la
Bible, c'est dit.
Mona Le Keuf, je vous propose de vous retrouver pour la suite de ces épisodes. Je rappelle qu'on peut découvrir votre histoire et puis découvrir aussi l'association que vous avez créée, cofondée aussi avec le père Bruno, qui est d'ailleurs ici, je crois, pendant ce pèlerinage du Rosaire. Donc ce livre s'intitule « Un enfant dans la prière, de la maltraitance à la miséricorde ». Je donnerai bien sûr tous les liens dans ces émissions qui sont en podcast sur nos radios chrétiennes, mais il existe donc un site de l'association et c'est www.uedlp.com. À demain, même lieu, même heure.